Vous êtes sur RTL.
7h46, merci infiniment d'écouter la première radio de France. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin le mathématicien Cédric Villani, député La République En Marche de l'Essonne.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Cédric Villani.
Bonjour. Bonjour Elisabeth Martichoux.
C'est une journée nationale, on en parle depuis le début de la matinée sur RTL, contre le harcèlement scolaire qui frappe 700 000 enfants d'après l'Éducation nationale. Vous avez été élève, comme nous tous, vous avez été enseignant, jamais dans le secondaire, je crois.
Non, jamais dans le secondaire. En revanche, il y a eu des enseignants dans ma famille tentés plus dans le secondaire.
Et est-ce que vous avez été victime ou témoin du harcèlement scolaire qui est un fléau absolument ?
Personnellement, j'ai jamais rien vu de grave au-delà de petites brimades de cours d'école qui, rétrospectivement, étaient sans importance. Mais effectivement, c'est un fléau, c'est quelque chose de grave. Et au-delà de ce qui se passe dans les cours de récréation, maintenant, il y a ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Le cyberbullying, pour prendre l'expression anglaise, ou le harcèlement en ligne qui mène à des situations graves et contre lesquelles l'Éducation nationale est en train de se muscler, si je puis dire.
Comment peuvent-ils s'armer et quel est leur rôle, quelle est leur responsabilité en fait dans la prévention?
Il y a un gros rôle des enseignants. Alors, soyons clairs, il y a avant tout chef d'établissement qui a la responsabilité du maintien d'un climat constructif, agréable, dans lequel on vient à l'école pour apprendre, mais aussi pour apprendre à vivre en société. Ça doit se passer dans la sérénité. Et puis, bien sûr, les enseignants dans leur classe, à qui on ne doit pas demander l'impossible, mais qui doivent bien être conscients de leur rôle.
Un rôle de plus ? Une responsabilité supplémentaire.
Ça a toujours été comme ça, la façon que l'enseignant a d'aider à l'instauration d'un bon climat. Essentiel pour cela que l'enseignant soit bien suivi, soutenu par sa hiérarchie chaque fois qu'il y a besoin. Et c'est un principe qu'il faut toujours rappeler. Et le ministre a toujours été très clair là-dessus, rappeler le rôle de responsabilité de l'État pour maintenir un bon climat.
Oui, soutenir les enseignants, on en a parlé récemment à l'occasion évidemment d'un fait divers. Il y a beaucoup d'enseignants qui ont témoigné du fait que leur hiérarchie ne les supporte pas toujours quand ils sont en conflit avec les élèves.
Nous, enseignants, l'avenir de notre nation est entre leurs mains. Et donc, il faut les soutenir chaque fois qu'il y a besoin. Et on négocie pas les questions de sécurité, les questions de responsabilité. Sans quoi, la transmission n'est qu'illusoire.
Une dernière question. Brigitte Macron, sur RTL, suggère que soient mises en place dans les classes des cours de bienveillance, de façon à ce que les élèves notamment soient sensibilisés à la différence, aux différences. Vous voyez cela dans l'inventaire de toutes les matières, il y aurait en plus des cours de bienveillance?
Que ce soit un cours explicite ou une séance ou du discours, la question c'est, il faut en parler et trouver la bonne formule pour en parler.
Ça s'apprend, comme on apprend une matière.
Ça se sensibilise en tout cas, c'est pas juste quelque chose qui se transmet de façon intellectuelle, si je puis dire. C'est quelque chose qui s'inscrit dans un ensemble. D'ailleurs, il y a toutes les questions de climat, c'est aussi le fait, de façon générale, que les jeunes... L'enseignant se sent épanoui, encouragé, soutenu. Je fais partie de ceux qui ont scolarisé dans différents pays, en l'occurrence États-Unis et France, et j'ai pu voir aussi les différences d'approche considérables par rapport au climat. S'il y a une chose qu'on doit retenir du système américain, c'est la notion de bienveillance envers l'enfant, de soutien, d'encouragement considérable. Je prétends pas que le système américain soit meilleur que le système français, pas du tout. Mais il y a là-bas cette notion d'encouragement, de regard positif à chaque instant qui met en confiance.
De regard positif, d'une certaine façon, c'est ce que vous dites et c'est plus global. Cédric Villani, l'itinérance mémorielle d'Emmanuel Macron est violemment percutée par l'hommage auquel était associé Pétain initialement à l'occasion d'une cérémonie le 10 novembre. Il n'a pas su éviter le piège, finalement. Si on regarde avec un peu de recul, si on peut dire, 24 heures, c'est pas beaucoup. Mais il n'a pas su éviter le piège d'évoquer Pétain comme un grand maréchal et comme un héros. Il aurait dû éviter.
Je pense que d'abord, il y a cette clarification qui a été très clairement posée hier soir. Il n'y aura pas d'hommage rendu. Il n'y aura pas d'hommage rendu à Pétain. Vous appelez ça un rétropédalage, j'appelle ça une clarification. Et c'est pas les détails du combat heure par heure entre la version et ceci qui m'importe. Premièrement, ce qui m'importe, c'est que on parle d'histoire et c'est tellement important pour cet événement aussi tragique et aussi fondateur qu'a été la Première Guerre mondiale. Deuxièmement, à qui va l'hommage en priorité? Quand on réécoute la façon dont le président Macron rendait hommage à ceux de 14, pour reprendre le titre de l'ouvrage de Genevoix, il commence par l'essentiel, les soldats, les poilus. Ceux qui sont venus combattre au front, ceux qui ne savaient pas dans quel bourbier ils allaient se retrouver, ceux en l'honneur de qui on porte le bleuet aujourd'hui beaucoup, ceux dont les familles se sont fait un sang d'encre et qui ont laissé leurs illusions, leur jeunesse, leur vie souvent.
Mais l'histoire, je disais, il a pas su éviter le piège Pétain parce qu'il le sait, vous le savez aussi, puisque vous avez mené un long combat pour qu'on reconnaisse la responsabilité de l'État dans la mort et la disparition de Maurice Audin pendant la guerre d'Algérie. Vous le savez ça, l'histoire divise. Est-ce qu'il fallait qu'il touche à cette matière-là
sur Maurice Audin, vous le savez, il y a eu un énorme travail qui a été fait et le président a été extrêmement courageux d'aller jusqu'au bout de la démarche. L'histoire divise, l'histoire rassemble aussi en fonction du regard
sur
lequel on
le porte. Le rôle du président, c'est de rassembler précisément.
Le rôle du président
et pas d'avoir
est toujours
des paroles
de rassembler.
Qui divisent. Il a divisé hier matin.
Il faudra quelques jours pour qu'on sache exactement comment cette séquence s'inscrit, mais ce que je retiens, c'est d'abord cette clarification qui a été rendue hier, et puis le fait qu'on est tous en train de parler d'histoire, en train de parler de la Grande Guerre, en train de parler d'un événement qui nous a touchés tous, qui a touché l'armée, qui a touché les soldats.
Un mot du fond quand même. Est-ce que, comme certains le disent, il n'y a pas une forme de relativisme à mettre sur le même plan quand il dit je ne pardonne rien, mais je ne gomme rien. Finalement, il laisse entendre que tout se vaut. Il se vaut l'action héroïque vaut l'action ô combien funeste.
Tout ne se vaut pas. Et quand on dit je ne gomme rien, ça ne veut pas dire que je mets tout sur le même plan. Et là, les choses
ça
sont claires.
Ça ne veut pas dire ça. Ça
ne veut pas dire qu'on met tout sur le même plan. On le regarde en face. Mais quels qu'aient été les actes de bravoure de Pétain pendant la Première Guerre, ça a été effacé au regard de la nation par l'indignité nationale qui est arrivée en 1945. Parce qu'il y avait des crimes qui étaient impardonnables, qui s'apparentaient peut-être à des crimes contre l'humanité, ou en tout cas il y a eu la complicité avec du nettoyage ethnique. C'est quelque chose qui est impardonnable, ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas sur le même plan.
Oui, alors vous parlez de l'histoire. L'histoire est tout sauf rationnelle dans la façon dont les Français souvent l'abordent. Mais vous êtes scientifique, vous êtes rationnel. Est-ce que le gouvernement n'a pas tort de souvent, justement, d'opposer un discours très rationnel face aux difficultés des Français? Quand il dit il faut absolument augmenter les prix des carburants parce que ça va dans le sens de l'histoire, parce qu'il y a une trajectoire, parce qu'il faut lutter contre le réchauffement climatique, c'est un raisonnement rationnel. Les Français, eux, ne l'entendent pas.
Il y a, bien sûr, en politique, les rationnel et la communication et l'irrationnel, et il faut tenir compte des sentiments des humains. Vous parlez de transition écologique, bien sûr, il faut y aller, c'est une nécessité. Pétrole, il n'y en a pas pour l'éternité. Réchauffement climatique, c'est une réalité. Et en même temps, il faut que ça se fasse ensemble. Dans les mots-clés, transition énergétique et solidaire, toujours, transition écologique et solidaire, c'est ça qui nous anime. Et c'est le nom aussi du collectif que nous avons été un certain nombre de députés à fonder à l'Assemblée nationale.
Absolument.
Mathieu Orphelin, moi-même et quelques autres, on a fondé ce collectif qui aujourd'hui regroupe plus de 150 députés de presque tous les bords politiques pour parler de transition écologique et solidaire.
Est-ce que le gouvernement doit tenir bon sur cette affaire de carburant?
Le gouvernement doit aménager, et a commencé déjà à aménager.
Suffisamment.
Il adoucit et il insiste sur le plus important, l'aide à la transition, l'aide à la conversion, des véhicules polluants en les véhicules nouveaux.
Il doit continuer
nouveaux.
À creuser ceci.
Le gouvernement doit continuer à la fois, vous allez me dire on est dit en même temps, mais c'est vrai, à la fois à s'engager et à engager la société sur la voie de la transition et à aider ceux qui ont le plus besoin d'être aidés sur cette transition.
Candidature à Paris, vous êtes sérieux? Vous êtes candidat à la candidature?
Tout à fait sérieux.
Ça ne vous décourage pas d'avoir en face de vous deux ministres déjà, Benjamin Griveaux, Mounir Majoubi. D'ailleurs, on vous a fait passer des messages en disant « Écoute, Cédric, tu mets la pagaille ».
Vous les présentez comme face à moi. Mais pour l'instant, nous sommes tous dans le même mouvement, que je sache, et tous participants à la même initiative collective, Paris et moi, les grands sondages effectués par les marcheurs qui réalisent un très grand travail.
Et vous irez jusqu'au bout,
c'est vrai. On va aller jusqu'au bout, ça veut dire jusqu'au bout de la démarche pour s'inscrire dans ce collectif porté par En Marche.
Et vous voulez être maire de Paris ?
Et je souhaite être maire de Paris, mais...
Vous êtes député de l'Essonne ?
Seulement avec l'investiture, bien sûr, du mouvement. Je suis député de l'Essonne et vous n'allez pas me nier sur le fait qu'on ne peut pas penser à Paris sans penser aussi à la couronne. Pour des questions de transport, pour des questions de cadre de vie, Paris et la couronne sont très liés. D'ailleurs, en ce moment, en même temps qu'il y a une... baisse démographique légère à Paris, et en particulier que des classes se ferment chaque année à Paris, on les récupère en Essonne régulièrement, avec une des plus fortes croissances démographiques scolaires de toute la France. Parce que entre Paris et sa couronne, il y a des contacts, il y a de la respiration. Et ça sera important pour moi d'être le candidat qui réconciliera Paris et sa couronne.
Cédric Villani qui nous dit ce matin qu'il ira jusqu'au bout de la candidature à Paris. Il a l'habitude des concours, il a l'habitude de les gagner. On verra cela. Merci à vous.
On retiendra aussi que l'histoire divise, mais qu'elle sait rassembler, nous a dit Cédric Villani. L'entretien, comme chaque jour, est à retrouver dans son intégralité sur le site rtl.fr. Et dans un instant, nous retrouvons M. Cyprien Sini.